L'oncle Jim comprit tout de suite qu'il avait fait jusque-là fausse route en essayant d'enseigner la musique à sa nièce. Il était clair qu'elle n'était pas née pour l'accordéon, mais bien pour la danse. Et c'était de ce côté qu'ils devaient diriger tous deux leurs efforts. Lizzie fut un peu étonnée et presque offensée de l'entendre insinuer qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Elle se souvenait des triomphes de son enfance et protestait que quelques semaines de pratique lui rendraient toute la souplesse d'antan. Mais l'oncle avait des idées sur la danse, des idées particulières et très arrêtées, et quand il les exposa à Lizzie, ce lui fut une révélation presque aussi complète que lorsqu'elle l'avait entendu pour la première fois jouer de l'accordéon. Elle avait accompli sous sa direction quelques exercices et se reposait. C'était l'heure où le marchand de sable passe pour les enfants et où les petites travailleuses fatiguées songent qu'il n'y a plus qu'une courte nuit entre l'heure présente et le travail du lendemain. L'oncle Jim était assis, penché en avant, les coudes sur les genoux, maniant rêveusement l'accordéon d'où sortaient à chacun de ses gestes des plaintes étouffées. « Voyez-vous, petite, n'importe quel jeune oie qui n'a pas les genoux trop raides ni la taille en bois peut donner des coups de pied en l'air, se casser en deux et appeler ça de la danse. Mais nous pouvons faire mieux que cela, petite, beaucoup mieux. Les gens du grand monde s'attrapent par la taille et tournent en rond en faisant des manières, et ils appellent ça aussi de la danse. » Mais si vous prenez une duchesse et si vous la mettez sur une plateforme de deux pieds de côté, bien sonore, et si vous lui jouez un air de danse, un vrai, qui vous enlève comme des coups de fouet dans les jambes, et que vous lui disiez de chanter cet air-là avec ses pieds, eh bien, elle ne saura pas, la duchesse. Elle ne saura pas, petite. Et toutes ses manières ne l'empêcheront pas d'avoir l'air d'une sotte, parce qu'elle ne saura pas. Entendant cette parabole, Lizzie perçut clairement que sa mission en ce monde était de faire ce que la duchesse n'aurait pas su faire, de monter sur une plateforme bien sonore et de chanter un air avec ses pieds, et qu'en dehors de cela, la vie ne serait jamais pour elle qu'une chose incolore et sans joie. Pour la première fois de sa vie, Lizzie sut ce que c'est que d'avoir un vrai désir, un désir qui vous hante et qui vous mène, et qui, oublié un instant, revient vous éveiller avec un sursaut au milieu de la routine du jour. Elle avait des moments de terreur affolée, la terreur d'avoir commencé trop tard, alors qu'il n'était plus temps, ou la terreur encore de quelque chose d'inattendu et d'inévitable, qui viendrait tout à coup l'arrêter. Puis sa peur se dissipait, et son calme coutumier revenant, elle se sentait envahie d'un grand espoir. Elle allait ce jour-là revenir de l'usine à la maison en toute hâte, boire son thé, manger une tartine, et l'oncle arriverait pour la leçon du soir. Elle écouterait tous ses conseils et s'appliquerait très fort, sans perdre une minute, afin de hâter ses progrès. Et elle recommencerait le lendemain et les jours suivants, et bien d'autres jours encore, jusqu'à celui où elle pourrait enfin monter sur la plateforme de son rêve, le carré de planches compactes et sonores qui serait son piédestal. Et là, scandant la musique miraculeuse du choc précis des talons et des pointes, répandre sur le monde l'ivresse du rythme qui la grisait. Lorsqu'elle fixait un certain point du mur pendant assez longtemps sans penser à rien, elle voyait son rêve se réaliser en images. Tout y était, la plateforme glorieuse, Lizzie, une Lizzie un peu transformée, qui avait des cheveux d'aurore, un sourire vainqueur et pourtant très doux, et probablement aussi un collier de perles au cou. Et tout alentour, il y aurait... Elle ne savait pas au juste quoi, mais ce serait glorieux aussi. Certainement pas des murs resserrés et humides, ni les vitres sales de la corderie. C'était peut-être des figures, d'innombrables rangées de figures claires qui formaient un amphithéâtre. Mais quoi que ce fût, ce serait bien, car il n'y aurait plus alors rien d'ennuyeux ni de laid. Et les belles juives de Whitechapel Road jauniraient d'envie. Elle était généralement rappelée à la réalité par un bruit quelconque ou le coup de pied charitable d'une voisine qui voulait lui éviter une amende. Et elle se remettait au travail de bonne grâce, avec un sourire un peu supérieur. parce qu'elle était seule à savoir ce qui allait arriver. Et l'été vint. Il vint tout à coup après un printemps tardif et froid, et peut-être qu'il remplit les campagnes de merveilles. Mais dans Mile End et Stepney, il pesa lourdement. Le soleil chauffa à blanc le toit de zinc de la corderie et transforma en étuve le long atelier où flottaient des poussières de chanvre. Et les heures chaudes se traînaient l'une après l'autre au long des interminables journées. Le soir arrivait pourtant, mais il n'apportait à Lizzie que Fay Street, pareil à un long couloir tiède et sans soleil, empli d'une atmosphère stagnante où se fondaient tous les relents du jour. Quand l'oncle Jim tardait à venir, elle montait pour l'attendre dans la pièce du premier et s'asseyait à sa place favorite près de la fenêtre. À cette heure-là, il venait souvent par-dessus les toits des maisons d'en face une brise un peu fraîche, qui annonçait l'approche de la nuit. Et même quand la brise manquait, les teintes douces du ciel entre les cheminées étaient une sorte de réconfort. Bunny, qui lui tenait généralement compagnie, se laissait parfois attendrir par la paix du soir et lui révélait ses aspirations. Il désignait le couchant par un geste vague et disait pensivement « Tu vois là où c'est vert, hein, que ça doit être loin !» Et après un silence, « Je voudrais bien y aller voir. » Il ne songeait probablement qu'à cette partie du monde qui devait se trouver directement au-dessous de l'horizon aux nuances d'aigues marines. Mais Lizzie, s'imaginant qu'il aspirait au firmament même, le regardait d'un air soupçonneux et se contentait de secouer la tête. Elle n'éprouvait aucun désir de ce genre. L'idée de déplacement s'associait dans son esprit avec des embarras nombreux, une grande fatigue, l'intrusion dans un milieu inconnu et probablement hostile. Non, elle préférait attendre son bonheur sur place. Elle sentait confusément qu'elle avait une quantité de souhaits à formuler, mais elle ne pouvait guère les séparer l'un de l'autre. Ils formaient un tout, un régime complet, dont l'avènement viendrait modifier un état de choses par trop défectueux. Mais séparés, ils perdaient leur prestige. L'obscurité venait peu à peu, peuplée de formes vagues, tachées de lumière, et Lizzie en venait à songer que si l'un de ses désirs pouvait être réalisé, elle souhaiterait avant tout que le soir durât plus longtemps. D'abord, le soir était souvent frais et agréable. On avait fini de travailler, et il y avait encore toute la nuit avant qu'il fallût recommencer. Toutes les dures nécessités du jour, les abus odieux, les flagrantes injustices cessaient, après tout, d'être si intolérables. Peut-être que le lendemain, ou un peu plus tard, tout s'arrangerait. Et en tout cas, tant que le soir durait, on n'avait pas besoin d'y songer. Le soir était une heure de repos et de dédommagement. Il venait rectifier d'une pesée légère les balances irrémédiablement faussées, et donner au pauvre monde presque toute sa mesure de paix. Lizzie aurait bien aimé qu'il durât plus longtemps. Pour le moment, elle n'en demandait pas davantage. Le grincement d'une porte poussée annonçait l'arrivée de l'oncle, et elle descendait le retrouver. Quelques instants plus tard, Fay Street était secouée dans sa torpeur par un refrain qui montait alerte et léger. Un air de danse qui semblait lancer un défi à toutes les choses lourdes et immobiles et emporter le reste dans une irrésistible ronde. Et bientôt se mêlait à la musique un autre son plus alerte encore, le tapotement de deux pieds vivants sur les planches. Il suivait d'abord la cadence timidement, hésitant un peu. Puis, quand elle se faisait plus allègre et plus forte, leurs battements s'élevaient aussi, précis et clairs, scandant le refrain, découpant en chocs nets chaque phrase de musique. Et ils finissaient par dominer la voix de l'accordéon, emplir la maison d'une grande clameur rythmée qui se fondait en roulements ou s'espaçait en intervalles. Marmottait une prière à petits coups discrets, s'affolait, se muait en défi, sortait par la fenêtre, insistante et brave, pour apprendre à l'univers indifférent que, là-dedans, derrière les murs pelés et la porte vermoulue, il y avait Lizzie Blakeston, la petite Lizzie, qui dansait, dansait, dansait. Un samedi soir, en rentrant, Lizzie trouva l'oncle installé dans la pièce du rez-de-chaussée. Sa figure et son maintien dégageaient une impression de mystérieux contentement. Il accueillit sa nièce d'un hochement de tête amical et lui montra des yeux quelque chose qui occupait un coin de la chambre. Lizzie suivit son regard et, joignant les mains, poussa un « Oh !» de surprise exaltante. Le mobilier sommaire de la pièce s'était enrichi depuis la veille d'une plateforme carrée formée de planches assemblées avec art. Une petite plateforme qu'on devinait au premier coup d'œil, bien assise, forte et légère, élastique comme un tremplin et sonore comme un tambour. Lizzie s'y campa d'un saut, arracha son chapeau et le lança sur la table, donna quelques coups de talon d'essai, poussa un éclat de rire aigu, reprit aussitôt un air de gravité surnaturelle et dit « Y a du bon !» Et l'oncle Jim empoigna l'accordéon avec un large sourire. Les enfants qui jouaient au milieu de Fay Street s'arrêtèrent tout à coup dans leurs ébats et, après une courte quête, vinrent écraser contre la vitre des figures multicolores. Ils arrivèrent juste à temps pour voir la danseuse s'arrêter, car l'oncle venait de reposer son instrument sur la table et, se renversant sur sa chaise, regardait son ouvrage d'un air de satisfaction modeste. « Et voilà, dit-il, c'est moi qui l'ai faite cet après-midi. Elle est bonne. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il faut savoir. » Puis il se leva et reprit son air mystérieux. « Ce n'est que le commencement, reprit-il. « Remettez votre chapeau, petite, nous allons sortir. » Lizzie écarquilla les yeux et obéit. Ils descendirent Cambridge Road, tournèrent à gauche dans Mile End Road et suivirent le large trottoir jusqu'au Paragon. L'oncle dit négligemment « Nous n'entrerons pas ce soir, mais on peut toujours regarder le programme. » Lizzie lut les noms l'un après l'autre, saluant ceux des étoiles d'exclamations admiratives. « George Mozart, Will Evans, Chirgwin, oh, oncle, Chirgwin !» L'oncle eut une moue évasive. « Oui, ça n'est pas mauvais, mais voyons ce qu'il donne la semaine prochaine. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, c'était une affiche jaune qui annonçait que la direction, afin de mettre au jour des talents nouveaux susceptibles d'orner la scène d'un music-hall, organisait pour la quinzaine suivante un grand concours ouvert aux seuls amateurs des deux sexes, qui étaient invités à présenter devant le jury formé de personnalités du quartier un numéro de leur composition. Lizzie lut l'affiche à demi-voix d'un ton placide, distraitement, et, se retournant, rencontra le regard de l'oncle qui se frottait le menton en la contemplant d'un air gouailleur. Ce fut seulement alors qu'elle comprit, et la chose lui parut sur le moment d'une si prodigieuse énormité qu'elle ne put qu'arrondir les yeux, hausser les épaules, et, les doigts raidis d'émotion, laisser échapper un long soupir, pendant que tous les becs de gaz de la façade entamaient devant ses yeux une sarabande hystérique. Puis elle demeura immobile sur le trottoir, la tête encore vide de toute idée, la bouche ouverte arrondie en haut, retenant son souffle, et le bruit des voitures et des tramways sur la chaussée, un moment suspendu, revint emplir ses oreilles comme un tonnerre confus. Le premier instant de stupeur passé, elle comprit plus clairement, et, embrassant d'un regard le large trottoir inondé de lumière, la façade imposante et le portier en uniforme, elle douta d'elle-même. « Oh, oncle, » fit-elle, « vous croyez ?» L'oncle eut un sourire supérieur. « J'en fais mon affaire, » dit-il. « Nous avons encore 15 jours, petite, et vous êtes entre de bonnes mains. » Après un instant de silence, il ajouta « Et le premier prix est de 2 livres. » Ils allèrent un peu plus loin dans Mile End Road, puis revinrent sur leurs pas et s'arrêtèrent de nouveau pour lire l'affiche avec attention, Puis ils rentrèrent. Lizzy marchait avec assurance au milieu du trottoir. Elle se tenait très droite et ses joues cuisaient un peu. Mais sa surprise s'était tout à fait dissipée. Elle se disait à elle-même très posément qu'elle aurait bien pu deviner que c'était quelque chose de ce genre qui allait arriver. Une petite fille qui rêve de contes de fées ne se donne guère la peine de calculer exactement comment et quand le miracle va, dans son cas, survenir. Et elle n'avait jamais tenté de se figurer ces détails d'une façon précise. Mais le miracle était là. Il n'était pas encore arrivé, à vrai dire. Mais il était presque à portée de la main, tangible, immanquable. L'oncle Jim, qui ne croyait pas aux fées, en répondait. Il lui parut plus proche et plus certain encore quand elle fut rentrée dans la petite maison de Fay Street, où la plateforme neuve, poussée dans un coin, semblait attendre. La chambre n'était éclairée que par la lumière incertaine qui venait de la rue, et il n'y avait pas de glace. Mais Lizzie traîna le carré de planche au milieu de la pièce, et de là, tournée vers la fenêtre, elle esquissa quelques saluts gracieux et peupla l'obscurité de ses sourires. Ce n'était toujours que Fay Street. On entendait par intervalles un bruit de querelle lointaine, le cri d'un enfant, les plaintes d'un ivrogne qui, poussé dehors, se lamentait et menaçait tour à tour devant sa porte fermée. Le silence lui-même était peuplé de modulations vagues, des mille craquements anxieux des fragiles maisons de pauvres, et la faible clarté de la rue n'éclairait que des murs écaillés, des fenêtres borgnes, et l'étroite chaussée jonchée de détritus. Mais Lizzie pouvait maintenant contempler tout cela avec sérénité. Elle n'en voulait plus à personne. Elle songeait déjà à l'heure présente avec une sorte d'attendrissement anticipé, et n'éprouvait qu'une immense pitié pour tous ceux qui n'avaient rien à attendre. Elle se répéta doucement « dans 15 jours » et esquissa un pas plein d'allégresse. Le claquement léger de ses semelles sur le plancher troubla le silence de la nuit et elle s'arrêta court, ayant cru entendre quelqu'un remuer en haut. La seule idée que Mr. Blakeston père était peut-être rentré et pouvait être dérangée dans son sommeil, glaça son enthousiasme. Elle sortit, referma la porte avec précaution, et retira ses chaussures avant de monter l'escalier. Cette quinzaine ne lui parut pas très longue. Elle avait attendu si longtemps que 2 semaines de plus ou de moins n'avaient pas vraiment grande importance. Et ces 2 semaines-là étaient différentes de toutes celles qui les avaient précédées. Il ne s'agissait plus de songes creux ni d'espérances improbables. L'événement merveilleux qui devait inaugurer l'ère nouvelle avait pris forme, une forme vraisemblable et indiscutablement réelle. Ce n'était plus qu'une date sur le calendrier, une date soulignée à l'encre, que rien ne pouvait empêcher d'arriver. Et puis, Lizzie était bien trop occupée pour être impatiente. Il fallait d'abord choisir l'air de danse, l'air irrésistible qui devait assurer le triomphe. Il fallait en copier la musique sur du papier soigneusement rayé pour l'orchestre du Paragon. C'était long, on devait s'appliquer terriblement, éviter les pâtés, ne pas se tromper de ligne. Et l'ouvrage fait, enlever avec une gomme les traces de doigts. Et avec tout cela, il fallait encore trouver le temps de travailler plus que jamais, d'apprendre par cœur toutes les nuances du morceau, d'en donner à l'exécution le fini brillant et sûr qui devait trancher sur la médiocrité des exhibitions rivales. Les heures d'atelier ne s'écoulaient qu'avec une lenteur fastidieuse, mais les soirées passaient dans la fièvre. Ce ne fut que dans le courant de la dernière semaine que Lizzie s'avisa qu'il était une question capitale qu'on avait jusque-là négligée, le costume. Elle y songea pour la première fois un matin en s'habillant, récapitula mentalement le contenu de sa garde-robe et s'abandonna au plus complet désespoir. L'insuffisance de son trousseau était si évidente qu'il semblait impossible d'arriver à une solution satisfaisante. Elle agita le problème toute la journée et décida qu'il faudrait recourir à des emprunts. Une camarade de l'usine avait un chapeau orné de plumes jaunes qu'elle consentirait peut-être à prêter, et une autre possédait une robe de satin noir d'une grande beauté. Lizzie se rasséréna quelque peu, mais quand elle fit part de son projet à l'oncle Jim, il réfléchit quelques instants et exposa des vues surprenantes. « Petite, dit-il, si vous avez le beau chapeau et la robe de satin noir, peut-être que ça fera plaisir à la galerie, mais vous pouvez être sûr que les gens des places chères ne trouveront pas ça superbe. Ils ont vu mieux que cela, cela ne les étonnera pas, et peut-être bien que ça ne leur plaira pas du tout. Il ne faut pas oublier qu'ils auront payé des 2 ou 3 shillings pour leur place, et que c'est leur opinion qui comptera aux yeux de la direction. » Il délibéra quelques minutes et dit avec décision « Vous ne savez pas ce que vous allez faire, petite. Vous allez danser en costume d'atelier. Parfaitement, avec une petite blouse de toile bien blanche, les manches relevées jusqu'au coude et sans chapeau. » Lizzie le regarda avec horreur, parut se soumettre lentement et dit d'une voix tremblante « Et la jupe ?» L'oncle eut un moment d'hésitation. « Ah, la jupe, dit-il. Il faudra voir. » Il se gratta la tête d'un air rêveur et réfléchit. « La jupe, reprit-il, ça n'a pas grande importance. N'importe quel jupon court pas trop mauvais fera l'affaire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit assez court pour ne pas gêner et pour bien laisser voir le travail des pieds. » Comme Lizzie ne paraissait pas convaincue, il continua d'une voix persuasive. « Voyez-vous, petite, ce que vous allez montrer, c'est quelque chose de distingué. Pas un numéro de danseuse nègre avec des robes à paillettes, des coudrins et des hurlements. Non, rien que la plateforme, l'orchestre qui jouera un air et vous. Vous avez des dispositions et je vous ai montré du mieux que j'ai pu. » L'oncle sembla se débattre avec son vocabulaire, plein d'un grand désir d'exprimer sa pensée. Il déploya les paumes et devint solennel. « De la danse comme ça, petite, ça n'est pas tout le monde qui peut la comprendre. Mais ça vaut mieux, c'est décent et c'est distingué. D'abord, s'il s'agissait de faire des singeries sur la scène, vous ne sauriez pas, ça n'est pas dans la famille. Au lieu de ça, vous allez leur montrer ce que vous savez faire, du travail propre et joli, et ceux qui n'y verront rien, c'est tant pis pour eux. Mais il ne faut pas oublier une chose, petite. C'est que si vous voulez avoir les 2 livres, et peut-être quelque chose avec, il faut leur montrer de la danse pour de vrai, et pas des singeries. » Lizzie hocha la tête, sérieuse. Elle avait compris. Mais ses conseils étaient superflus. Elle avait une mission qui n'était certes pas de faire des grimaces et des cabrioles. L'oncle lui-même ne considérait l'épreuve de samedi que comme une occasion heureuse dont il fallait essayer de profiter. Elle, Lizzie, en savait davantage. À partir de samedi, tout allait changer. L'horloge du temps allait s'arrêter une seconde et repartir, allègre, pour battre la cadence heureuse des jours nouveaux. C'était un miracle authentique révélé à elle seule, qui venait en secret et dont il faudrait se réjouir en cachette. La réalisation d'une promesse faite il y avait longtemps, longtemps, à une petite fille sage qui avait patiemment attendu. C'était l'impression qui la dominait encore quand elle fit son entrée sur la scène du Paragon, le sentiment confus qu'elle avait attendu toute sa vie, au long des interminables années grises, et que le moment était enfin venu. Elle n'avait aucun doute sur le résultat. En un quart d'heure passé dans la coulisse, elle venait de voir défiler sur les planches 12 de concurrentes, dont les romances nasillées plaintivement ou les monologues éventés n'avaient suscité qu'une hilarité peu flatteuse ou des murmures impatients. Il n'y avait eu qu'un succès, un menuisier qui jonglait avec ses outils, mais Lizzie n'avait pas peur. Quand son tour fut venu, elle attendit qu'un domestique en livrée chamarrée eût traîné sa plateforme au milieu de la scène, Puis elle fit son entrée à pas rapide, affairée et digne, s'assura que le carré de planches était posé bien d'aplomb et s'y campa. Elle s'aperçut alors que son entrée avait été accueillie par une grande clameur. Une clameur née quelque part au fond de la salle béante, qui venait franchir la rampe comme une avalanche de bruit. Toutes les amies de la corderie étaient là-haut, dans la galerie à six pence. Le bar était déserté. Celles qui n'avaient pu trouver de siège s'entassaient autour des balustrades et elles criaient toutes à tue-tête « Lizzie ! Ohé ! Lizzie ! Hurrah !» Et les spectateurs des autres places commencèrent à appeler aussi « Lizzie ! Ohé ! Lizzie !» au milieu des rires. L'orchestre, étonné, ne jouait pas encore. Lizzie restait immobile sur sa plateforme, impatientée et presque en colère. Mais l'occasion était si solennelle qu'elle ne pouvait que se contenir et attendre encore un peu. Peut-être était-ce la fragilité de sa silhouette, du corps menu, seul au milieu de la scène. Peut-être l'humilité naïve du costume, du jupon court à fleurs, du corsage pauvre aux manches relevées. Ou bien encore était-ce la simplicité enfantine de sa figure blanche sous les cheveux légers, son air solennel d'attente. Mais Lizzie, toujours immobile, figée et digne sous les appels familiers, avait quelque chose d'étrangement pathétique. L'orchestre attaqua un air de danse, et l'auditoire, amusé et sympathique, se tut tout à fait en voyant que la petite poupée s'était mise à danser. Elle dansa avec soin, suivant exactement la cadence, un peu ennuyée que l'orchestre jouait à son gré trop fort, et qu'elle craignait de n'être pas entendue. En face d'elle, il y avait une vaste salle presque comble, d'innombrables rangées de sièges occupés par des spectateurs, hommes et femmes, qui étaient maintenant silencieux. Tout cela était exactement comme elle se l'était imaginé. Après les premières mesures, sa vue se troubla un peu, et elle ne vit plus devant elle qu'un grand espace béant peuplé de figures attentives, vers lesquels le tapotement léger de ses pieds sur les planches s'en allait comme un appel poignant. Il y eut un passage difficile, très vif, et la peur désespérée d'être en retard sur la mesure la remplit d'une angoisse fiévreuse. Mais après cela, c'était un rythme plein et facile, un chant clair, léger, joyeux, qui l'emporta tout entière. Elle eut envie de tendre les mains pour offrir ses paumes ouvertes, de se laisser osciller avec la mesure, de chanter avec tout son corps l'hymne de désir et d'allégresse. Tous ces gens qui écoutaient, comment pourrait-elle leur faire comprendre ? Mais les paroles de l'oncle Jim lui revinrent à la mémoire, « Surtout, petite, pas de singerie !» et elle laissa retomber ses bras à ses côtés. Il fallait pourtant bien qu'elle se fît entendre, et elle essaya de faire passer dans sa danse tout ce qu'il lui était interdit d'exprimer autrement. D'une cadence preste et légère, elle fit un naïf Alléluia, le psaume délirant d'une petite créature jeune grisée d'air et de soleil. Et quand le rythme retomba, l'anguille se traîna un peu, elle leva vers la salle béante ses yeux enfantins, et raconta d'un tapotement incertain et monotone sa courte vie incolore, longue d'ennui, son espérance découragée, le rêve encore mal défini, obscur et fragile. Et c'était fini. Elle entendit arriver la dernière mesure avec une surprise affolée, fit claquer ses derniers coups de talon très fort en guise d'appel, de protestation. C'était trop court, on ne pouvait pas la juger là-dessus, c'était si important pour elle, elle aurait dû... Et l'orchestre était silencieux, la salle était sortie de son immobilité, emplie soudain de mouvements divers et d'un grand bruit confus. Lizzie, oubliant la révérence gracieuse qu'elle avait projetée, descendit de la plateforme et entra dans la coulisse, un peu étourdie, la gorge serrée, prenant les dieux à témoin que c'était trop court et qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Un gros monsieur l'arrêta par le poignet et, sans lâcher prise, avança de deux pas et prêta l'oreille. Elle écouta aussi et se dit qu'il y avait beaucoup de gens qui applaudissaient, mais qu'il n'avait pas l'air de claquer bien fort. Une voix de femme, aiguë comme un sifflet, cria au-dessus du tumulte « Lizzie ! Lizzie ! Encore !» Le gros monsieur se retourna, hocha la tête d'un air paternel et dit « C'est un succès, petite, un vrai succès !» Et une jongleuse américaine montra des dents éblouissantes et un sourire protecteur.